Donc, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter de nouveau, parce qu'il y a beaucoup de sites distincts qui n'ont pas eu les quelques premiers mots de votre présentation.
Oui, oui, bien sûr. Donc, je suis docteur en chiffres au SIGREF, une association de grandes entreprises qui travaille sur la transformation numérique. Et donc moi je suis doctorante en sciences humaines, donc mon sujet de thèse c'est sur l'éthique de la conception numérique, et c'est une thèse en philosophie, voilà.
D'accord. Alors, il y a une question qui est un peu polémique, mais je pense qu'il faut la poser. Il y a des personnes qui demandent si, quand on embauche un thésard sous sous CIFRE, est-ce que c'est une vraie embauche de thésard, ou est-ce que c'est pas juste un effet d'aubaine parce qu'il y a des subventions?
Alors effectivement, c'est un sujet qu'il faut aborder, parce que il y a des constats qui effectivement peuvent porter à dire qu'on va recruter un doctorant pour le faire travailler sur des missions qui sont déjà existantes dans l'entreprise, mais le contrat CIFRE est très clair là-dessus. La fonction du doctorant doit être une fonction de recherche au sein de l'entreprise. Donc c'est normalement pas une fonction qui est déjà préétablie pour remplacer un collègue qui est parti, ou un aménagement, il y a juste le titre qui dit recherche, et derrière, finalement, il fait la même chose que les autres collègues. Normalement, le contrat CIFRE, c'est très clairement mentionné là-dedans, mais il faut bien l'avoir en conscience en tant que doctorant, parce que c'est vrai qu'on peut être aussi très très content et redevable finalement de se faire embaucher, donc on peut être un peu naïf aussi au début. Donc il faut être vigilant là-dessus et vraiment dire que c'est un poste de recherche qui doit être normalement à 100% sur son sujet de recherche, même s'il y a 50%, 70% du temps qui est passé dans l'entreprise, c'est vraiment en lien avec le sujet de recherche. Alors c'est peut-être plus facile pour les sciences dites dures, c'est un peu plus compliqué pour les sciences humaines, en tout cas pour mon cas, c'était un peu plus compliqué de définir ça.
D'accord. Donc faut pas être naïf, mais faut pas non plus avoir honte d'avoir un CIFRE.
Oui, pour résumer.
D'accord.
Je sais pas si ça répond...
Du coup, il y a une petite question un peu par rapport, en rapport avec tout ça. Je vais essayer de resynthétiser à la volée, j'espère pas trop faire n'importe quoi. Donc du coup, il y a une inquiétude donc, au niveau du doctorant CIFRE de devenir un peu une machine à produire un CIR, crédit impôt recherche. Et surtout, en fait, c'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'avec le CIR, les entreprises, bénéfice pour elle de recruter un docteur, mais au final après, est-ce que le docteur il va pas se retrouver tout seul dans l'entreprise, est-ce qu'il va pas se sentir un peu isolé, est-ce qu'il va savoir quoi faire, et en plus quand on est jeune docteur, on n'est pas vraiment formé à 200%, enfin on a peut-être encore quelques inquiétudes, et du coup on aurait peut-être besoin d'avoir un mentor scientifique dans l'entreprise, donc est-ce que ce serait pas un problème de se retrouver tout seul dans une entreprise en tant que docteur?
Alors, je vais juste intervenir pour qu'on mélange pas tout. Le CIFRE, c'est pas du CIR, et certaines entreprises qui font du CIFRE peuvent aussi être éligibles au CIR, mais sont deux choses différentes, déjà. Et ensuite, les 200% auxquels vous faites référence, c'est pour l'embauche des docteurs, c'est-à-dire une fois qu'il a son doctorat. Il y a un accompagnement des entreprises pour favoriser l'emploi des docteurs. Alors après, le fait qu'ils se sentent tout seuls ou pas, ben, c'est aussi le choix de carrière des uns et des autres. Enfin, après, une fois qu'on est diplômé, on rentre dans la vraie vie avec des parcours de carrière, des parcours professionnels dont on a aussi sa propre responsabilité. Mais je laisse la parole à ma camarade.
Alors après, pour ce qui concerne les CIFRE, il y a aussi un responsable scientifique qui est nommé de son office aussi dans le contrat. Donc il y a un référent scientifique dans l'entreprise qui est censé encadrer le parcours du doctorant. Mais par contre, pour les docteurs, je ne saurais pas vous dire.
Okay. Après, sinon, donc une autre question par rapport à ce que vous avez dit sur le fait qu'il ne fallait pas hésiter quand on était docteur à aller dans un domaine d'expertise qui n'était pas le nôtre. Donc du coup, c'est une question qui nous vient de Lyon, qui demande comment est-ce qu'on peut être crédible si on souhaite aller sur un domaine d'expertise qui n'est pas celui sur lequel on a fait sa thèse. On souhaite changer complètement le domaine d'expertise.
Oui, enfin, c'était plus. Alors, une fois que vous êtes embauché, en fait, c'était peut-être pas très clair. une fois que le docteur est embauché, de ne pas rester focalisé sur son expertise.
Oui,
et voilà, il peut être embauché sur justement cette spécialité, ce qui est tout à fait légitime, et de montrer qu'il est capable de s'ouvrir à d'autres choses. Et de toute façon, c'est des choses qui viennent naturellement une fois qu'on est dans une entreprise. De toute façon, il y a tellement de choses qui sont transversales, si vous voulez, que d'office, a priori, vous êtes ouvert à de nouvelles choses. Mais voilà, c'était juste un point de ne pas rester effectivement enfermé dans sa bulle, entre guillemets. Mais pour moi, c'est impossible de rester enfermé dans un contexte où on est en permanence en confrontation avec différentes équipes.
Voilà. Mais du coup, par exemple, je ne sais pas si on a fait sa thèse sur un sujet en particulier pour se faire recruter par une entreprise sur un sujet totalement autre. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on va être opérationnel sur ce sujet-là alors que on n'y a pas travaillé dessus pendant 3 ans.
Je pense que ça pose la question de formation à la recherche et par la recherche. Le fait d'avoir été en capacité durant 3 ans, de, vous l'avez dit, hein, d'être persévérant sur un sujet créatif, a donné des compétences et une capacité à mobiliser des événements, des éléments scientifiques, que ce soit des sciences de l'exact ou du complexe, qui sont bénéfiques pour un employeur. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Ce n'est pas juste la formulation d'une des molécules sur laquelle on a pu avoir travaillé ou un morceau de code, ou je ne sais, durant ces 3 ans. C'est cette capacité à mobiliser toutes ces connaissances au service de la formulation d'une question, de la formulation ou de l'observation d'un point entier d'activité pour le mener à bien, pour le développer. C'est cette capacité autre que celle qu'on a acquise après le master à mobiliser des compétences très très propres aux chercheurs. C'est ça qu'il faut voir, bien évidemment, au-delà de ces connaissances.
Enfin, on sent un peu d'inquiétude dans les questions. Il y a une question, par exemple, qui demande qu'est-ce qui se passe si on a mis plus de 3 ans à faire sa thèse, qu'on soit cifre ou pas cifre d'ailleurs, est-ce que ça vous dévalorise aux yeux de l'entreprise?
Moi, je dirais non, mais je sais pas. Moi, j'ai dépassé mon contrat CIE, j'étais embauché en CDI, et là, je suis sur ma 4e année, et j'ai l'obligation de terminer au bout de 4 ans auprès de mon école doctorale, de toute façon. Donc, moi, j'ai dépassé les 3 ans, mais parce qu'il y a des choses qui justifient aussi, c'est que parfois, le sujet de recherche n'est pas très bien calé au tout début, ou voilà, normalement, c'est... C'est des choses qui, voilà, 4 ans, on va dire que c'est la norme dans l'académique. La CIF, c'est 3 ans, mais en tout cas, je pense, après même, moi, mon responsable scientifique a fait sa thèse en 6 ans. C'était un docteur, et il n'y a aucun problème, embauché. D'ailleurs, elle a un parcours, une carrière professionnelle impressionnante. Donc, pas du tout, c'est... Enfin, je n'ai pas plus d'éléments de réponse que ça.
Ensuite, du coup, on a une question assez intéressante de la part de Reims. Donc, à l'étranger, pour être cadre supérieur, il faut forcément avoir un doctorat, le fameux PhD. Qu'en est-il en France?
Alors, si je peux commencer à répondre. Alors, c'est peut-être un peu drastique de dire qu'à l'étranger, pour être cadre supérieur, si tant est que ça soit formulé comme ça, il faut avoir un PhD, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de cadres supérieurs PhD à l'étranger, et qu'il est de bon ton sur sa carte de visite d'en avoir un, parce que ça positionne la personne dans un contexte international. En France, effectivement, c'est moins vrai parce que on se raconte pas d'histoire. Hein, les postes à haut potentiel ont été trustés par les grandes écoles et qu'on a tendance à reproduire des schémas. Quand on sort d'une grande école, ben, on est assez confortable en recrutant quelqu'un qui a fait le même parcours. De la même façon que moi, j'ai tendance à recruter des cifres parce que j'en ai fait une, je les connais bien et je me dis que c'est forcément une valeur sûre. Ça, c'est un biais sur lequel il faut travailler. Ça vaut aussi pour le genre. Hein, peut-être qu'à une période, on avait tendance à confier certains postes plutôt à des hommes qu'à des femmes. Ça, il y a un biais dont on est à la limite contributeurs tous à son échelle. Donc, plus on aura des docteurs qui font des grandes carrières, qui deviennent patrons, qui sont dans les COMEX, plus ça ouvrira la porte à cette voie de formation, à mon avis.
Grâce toujours qui dit que l'ENA souhaitait pendant un temps donner un doctorat d'exercice afin d'être compétitifs à l'étranger. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah ben, il me semble que ça y est, hein, ils se sont ouverts, ils ont ouvert l'ENA au docteur déjà, là c'est récent, j'ai vu passer quelque chose sur l'AEF, hein, donc il faut vérifier, mais il me semble qu'il y a maintenant une voie d'entrée à l'ENA spécifique pour les docteurs, et ben, ça va dans le sens de l'histoire, ça va dans le fait que depuis 30-40 ans, on a fait sortir les docteurs des laboratoires. Il faut quand même se souvenir, je vous invite tous d'ailleurs à lire l'histoire du doctorat en France, qui est absolument magnifique, c'est une histoire qui commence au 12e siècle, et alors bon, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire ici, mais on voit bien que jusque dans les années 70-80, les docteurs étaient surtout là pour alimenter la gestion des ressources humaines des universités. Donc on les a fait sortir, et les chiffres étaient une voix aux côtés d'autres. Et bon bah voilà, ça rentre, alors que aux États-Unis, où les campus sont plus poreux, il y a plus de porosité entre les entreprises et les universités, bah, les docteurs du coup sont plus mobiles, mais la gestion des ressources humaines dans les universités américaines ne sont pas les mêmes non plus. Les modalités de formation doctorale ne sont pas les mêmes non plus, donc ça ouvre tout un chantier, et la France est sur la voie de plus docteurs dans le privé.
Mais si j'ai bien compris la question, c'était pas ça.
Ah, c'était pas ça, pardon.
C'est ce qu'ils appellent le doctorat d'exercice, si j'ai bien compris. C'est dire, si vous avez un diplôme de l'ENA plus X années de pratique, c'est équivalent à un doctorat. Donc on a un doctorat, c'est un bout de papier, quoi.
Mais il y a d'autres doctorats d'exercice, hein. Vous l'avez en médecine, vous l'avez dans l'avocature. Donc bon, là par contre, je n'ai pas suffisamment de connaissances pour répondre à votre question. D'accord.
Alors, au niveau des questions,
une question, c'est un peu vénale, mais je pense qu'on se la pose toutes, enfin tous. Une question qui nous vient de Lille, c'est, pouvez-vous donner quelques conseils pour négocier le salaire en tant que jeune docteur?
Alors, moi, je n'ai pas cette expérience, malheureusement, puisque je ne suis pas encore docteur. Et que quand je suis arrivé, c'était pour un stage, donc si vous voulez, ce qu'on a dit, je pense que c'est tout à fait valable, c'est valoriser le contenu de la thèse et les connaissances pointues qu'elle possède, et tout ce qu'il y a autour, quoi, tout ce que la pratique de la recherche procure comme compétences et comme qualité également humaine. Ça, c'est des choses à valoriser et qu'il ne faut pas négliger, effectivement, c'est ce qu'on a dit.
Alors, je vais compléter en rappelant que quand on va chercher un travail, qu'on se retrouve devant un recruteur potentiel, c'est comme la négociation de n'importe quel contrat. Or, il faut arriver en connaissant l'autre et en ayant fait un peu de benchmark. Il faut arriver soi-même avec des biscuits dans son sac à dos ou des cartouches, pour employer un terme plus militaire. Et donc, je vous invite à faire un mapping, un benchmark des salaires selon des secteurs d'activité, selon la taille d'entreprise, à arriver en connaissant déjà un peu la structure, le squelette de l'entreprise, ses clients, son chiffre d'affaires, pour essayer de taper juste. Parce qu'en fait, le plus important, c'est on a envie de gagner plus. Mais en même temps, dans une négociation, si c'est trop facile pour l'autre de vous dire non, c'est vous qui n'allez pas être crédible. Donc il faut arriver en négociant avec ce que l'autre, juste au-dessus de ce que l'autre peut pas refuser quelque part. Hein, faut toujours, et ça vaut pour la négociation d'un salaire, mais ça vaut pour la négociation d'un projet, parce qu'un directeur un doctorant, c'est un directeur de projet quelque part. Il a trouvé son sujet, il a trouvé sa modalité de financement, il a trouvé ses ressources, etc. Donc, dès la formation doctorale, on se met en logique de négociateur permanent. Peut-être vous négociez avec le directeur de thèse pour aller au colloque à Shanghai ou je ne sais où, à San Diego. Et on est en processus de négociation en permanence, hein, dans le milieu professionnel.
Ok, merci. Alors, du coup, une petite question de Marseille. Donc, il demande, parmi les doctorants qui ont fait une CIF, qui sont devenus docteurs suite à une thèse en entreprise, combien partent dans le domaine public? Et ensuite, on va découper la question ainsi.
Alors là, on l'a vu, hein, c'est 25%, à peu près 75% des doctorants CIF qui font une carrière privée. Alors privée extra large, hein, disons un milieu socio-économique qui n'est pas le milieu académique. Et 25% qui vont dans le, qui restent ou qui retournent, je ne sais pas comment dire, dans le milieu académique.
Ok, et donc la deuxième partie de la question, c'est quel est le pourcentage de doctorants qui ont fait leur thèse dans une grande entreprise?
Alors, c'est à peu près 1 sur 2. L'année dernière, c'est-à-dire en 2017, on a renversé l'équation. Jusqu'à présent, il y avait plus de cibles dans les grandes entreprises que dans les PME. Et à partir de 2017, on fait un reverso et les PME, les cifres en PME sont plus nombreuses en nombre de cifres que dans les, grandes entreprises.
Donc là, il y a plusieurs questions qui viennent. Pardon. Qui viennent de Grenoble. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque que les doctorants soient surdiplômés face à des ingénieurs? Et est-ce qu'un bac plus 8 peut prétendre à une meilleure rémunération qu'un bac plus 5?
Alors, je vous invite à prétendre à une plus grande rémunération, et dans les chiffres, on le voit nettement, hein, on compare avec les enquêtes des instituts des ingénieurs et des scientifiques de France. Il y a une enquête qui sort chaque année, on voit bien qu'en tout cas, fin de chiffre, ils gagnent plus que leurs homologues à Bac plus 5, et il faut absolument valoriser notre doctorat. C'est pas normal que les employeurs disent « bon, vous avez fait une thèse, mais on va la mettre de côté et on va considérer qu'on va vous embaucher à Bac plus 5 ». Là, c'est un problème de négociation. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, parce qu'il peut y avoir des salaires moindres, des intérêts personnels à quand même aller dans cette entreprise, mais ça me paraît pas raisonnable. C'est dénier l'intérêt de la formation doctorale.
Et le début de la question, parce que j'ai répondu qu'à la moitié là.
Non, mais c'était ça la question.
Ça suffit.